France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Cette semaine, c'est à la recherche d'Iris Murdoch, philosophe-écrivaine, que nous avons décidé de nous lancer. Et aujourd'hui, cette recherche ressemble à une véritable course-poursuite, puisque nous suivons Jake, héros de son premier roman sorti en 1954, qui de Londres à Paris poursuit Anna, Hugo et son propre destin, empêtré entre sa paresse, ses galères d'argent, des illusions qui perdurent et les inévitables malentendus du langage.
Je suis en train d'écrire un roman. Je ne sais pas si vous avez le temps ou même l'envie de lire un roman.
J'en ai écrit un, il va être publié. Et j'en prépare un autre.
Oh, vous me laisserez le lire?
Personne ne l'a encore lu, aucune de mes connaissances.
Ça raconte quoi?
Ce que ça raconte? Un petit peu de tout, je crois.
Un peu comme Shakespeare?
Peut-être, oui. Non, dites rien à personne, je vous prie.
Non. Je vous assure que non, je ne le dirai à personne.
Accordez-vous une grande importance aux mots dans votre collège?
Je fais tout ça un peu par obligation en tant que guide et tuteur. Il y a une foule d'Américains et de Français que je dois materner. Vous adorez les mots, n'est-ce pas, Iris?
Mais sans les mots, comment penser?
Et que racontez-vous dans votre roman?
Ça traite de liberté, de vertu, et de savoir se faire aimer.
Oui, je dois dire que c'est vraiment tout ce qui compte. Vous savez, le langage est de toute évidence très important, mais ce n'est pas la seule façon de se comprendre entre nous. Il y a l'odorat et la vue et le toucher, bien sûr. J'adore votre nez.
Il est très vilain.
Bonjour Barbara Servan.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse et enseignante agrégée de lettres modernes. Vous avez soutenu une thèse sur Iris Murdoch, thèse qui a pris la forme d'un livre publié sous le titre « Légèreté pensive et énergie romanesque, Iris Murdoch, Raymond Queneau et Italo Calvino » et c'est paru aux éditions Classiques Garnier. Iris Murdoch reste relativement méconnue en France. Vous, comment l'avez-vous découverte et comment avez-vous notamment découvert ses romans?
C'est par le biais de Raymond Queneau, puisque elle dédicace son premier roman Under the Net, donc Sous le filet,
dont on va parler aujourd'hui.
À Raymond Queneau, et elle explique que justement ce roman se fait vraiment à la lumière de cet auteur et au cours notamment d'une longue correspondance qu'elle a eue avec lui, parce qu'elle voulait au départ traduire Pierrot mon ami. Je dis elle voulait parce que finalement elle a pas réussi cette tâche de traduire Pierrot mon ami, mais en a découlé une longue amitié. Et à plusieurs égards, Sous le filet peut effectivement se situer un peu à la lumière de cet auteur. Et donc j'avais voulu travailler sur la question d'une forme de légèreté pensive, c'est-à-dire la façon dont tous les deux, ainsi que Italo Calvino, à partir de qui en fait j'ai élaboré cette notion, tous les trois donc proposent que le roman pense et propose de voir à travers le roman une façon de penser qui serait proprement romanesque et qui se ferait donc avec une forme de légèreté qui se retrouve donc dans le roman d'Iris Murdoch.
Alors vous avez parlé effectivement de cette rencontre entre Iris Murdoch et Raymond Queneau qu'elle voulait traduire. C'est intéressant parce que son premier roman, Sous le filet, dont nous allons parler toutes les deux durant l'heure qui vient, met en scène Jake, le héros ou anti-héros, on va y revenir, qui lui aussi est traducteur. Alors là, on a entendu dans l'extrait qu'elle parle, l'extrait du film Iris, qui est donc un biopic sur Iris Murdoch, qu'elle parle de son premier roman comme portant sur la vertu, la liberté, ça va parler un peu de tout. Mais en fait, ce roman ne parle pas un peu de tout. Quel en est le sujet véritablement?
Oui, il me semble que par rapport à ces enjeux-là, j'aurais proposé d'autres enjeux. Donc il y a la question de l'autorité, de devenir un auteur, comme vous le rappeliez. Jake, il apparaît comme un traducteur d'abord, un traducteur à double égard, puisqu'il est d'abord le traducteur d'un romancier français. Et puis ensuite, il va aussi transcrire une discussion qu'il a avec un autre des personnages du roman, qui s'appelle Hugo. Et c'est une discussion qui prend tous les airs du du dialogue philosophique et qui est en fait au cœur du roman. Dans cette mesure, il insiste beaucoup aussi sur le fait qu'il a peur de trahir ce qui a été dit en la transcrivant en dialogue. Et donc, dans cette mesure, il peut aussi apparaître comme une forme de traducteur de ce dialogue philosophique. Et enfin, à la fin de ce premier roman, il va dans une petite boutique avec Madame Tinkenham, qui est un peu son référent. Et en fait, il voit une portée de chat, et on a souvent pu lire cette portée de chat peut-être comme les livres à venir, qui seraient des livres, cette fois-ci, qu'il écrirait en son nom propre et pas comme traducteur des pensées des autres ou des écrits des autres. Ça, c'est un premier enjeu. Et il me semble qu'il y a aussi d'autres enjeux, qui est aussi la quête de soi. Jake, ça commence, on en écoutera peut-être un extrait, par le fait qu'il est mis à la porte de chez sa compagne du moment, Magdalene, et il commence une errance entre Paris et Londres. Et cette errance se traduit aussi comme une forme de quête de soi, un peu à la manière du roman picaresque, recherche de son identité. Et cette recherche de son identité, elle passe aussi par un apprentissage, qui est l'apprentissage du fait de vraiment regarder les autres comme des altérités, et d'arrêter de fantasmer sur les autres, de fantasmer ce que seraient les autres pour se les approprier en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment un apprentissage qui se fait tout au long du roman, et donc qui viendrait aussi compléter cette définition des grands thèmes du roman, qui serait pas seulement la vertu, la liberté, mais aussi peut-être l'apprentissage de l'altérité, du fait de l'attention à l'autre comme une altérité.
Mais on peut tout de suite avoir un petit peu peur, Barbara Servant, c'est-à-dire se dire, Iris Murdoch, elle a d'abord fait de la philosophie, certes elle écrit très vite des romans, là elle l'écrit en 1953, il est paru en 1954, et on a très vite peur, c'est-à-dire que s'il y a tout de suite des enjeux, des sujets comme la quête de soi, l'attention à l'autre, et vous avez mentionné les dialogues philosophiques, est-ce qu'on tombe pas dans le roman à thèse? Tout le monde déteste les romans à thèse, apparemment ce serait horrible, on se demanderait pourquoi. Est-ce que il y a ce travers-là, ou en tout cas ce versant-là chez Iris Murdoch, de se dire on ouvre quand même un roman philosophique?
Oui, alors justement, souvent elle a été qualifiée de philosophical novelist, donc une romancière philosophique, elle ferait des romans philosophiques, et elle refuse absolument cette étiquette.
Mais on peut la refuser et tomber dedans malgré tout.
Oui, mais ce sur quoi elle insiste, c'est vraiment de ne pas soumettre le roman à une théorie, et de ne surtout pas faire du roman une illustration de la théorie philosophique. Et justement, à cet égard, si la philosophie, donc je parlais du dialogue philosophique, si la philosophie innerve le roman et apparaît comme un matériau romanesque, elle ne soumet pas le roman et la matière philosophique en étant une illustration. Par exemple, le titre lui-même, Sous le filet, en fait, c'est une citation de Wittgenstein qui est reprise dans le dialogue justement philosophique qui est au cœur du roman. Mais en même temps, c'est une image qui peut aussi renvoyer à une forme de trio, par exemple l'image de Vulcain, du filet que Vulcain utilise pour coincer Mars et Vénus, avec plusieurs figures qui pourraient apparaître comme ce trio, et le jeu du trio qui est central, on le verra tout à l'heure peut-être dans le roman, vous aviez parlé de course-poursuite au tout début dans votre présentation. Donc c'est une image qui dépasse en fait l'enjeu philosophique initial, même si l'enjeu philosophique
il est assez clair
et il est revendiqué et il est posé. Et par ailleurs, il y a d'autres aussi références philosophiques, avec la multiplication de ces références, il y a aussi une forme de jeu. Et ce jeu, il est quand même visible aussi dans la recherche par Murdoch d'un roman dans lequel on va être pris. On parlait des courses-poursuites amoureuses, mais aussi cette reprise du schéma du roman picaresque avec un personnage qui vagabonde, etc. Et puis surtout des personnages qui sont souvent tournés en dérision, même si le fait de les tourner en dérision n'empêche pas la tendresse aussi pour ces personnages qui essayent de se débattre. Et puis par rapport aussi au fait que elle s'empare, mais de façon, cette fois-ci, romanesque, d'enjeux aussi qui seraient philosophiques, comme une façon aussi de compléter, mais autrement, la pensée philosophique et de la développer, mais d'une autre manière, de s'interroger, mais d'une autre manière sur ces enjeux-là, en fait.
Ou alors d'en montrer les limites aussi, de montrer les limites d'une langue philosophique. Il faut quand même le dire, là, on en parle très sérieusement, mais ce roman est très très drôle. Vraiment tout le temps drôle. C'est-à-dire que Jake, c'est vraiment un personnage pour lequel on a énormément de tendresse, beaucoup d'empathie, mais il est tout le temps empêtré dans des galères. Et parfois, on a envie de lui dire, mais réveille-toi. Il fait, je ne spoil personne, en disant qu'il va kidnapper un chien acteur pour faire du chantage, pour récupérer le manuscrit d'une traduction de Rossignol des Bois. Ça, par exemple, c'est une situation qui est absurde, où il se retrouve dans un décor de théâtre, de scène romaine, de la Rome antique, et le mur s'effondre sur lui.
Oui, et alors ça, à plein d'égards, en fait, elle emprunte beaucoup au film burlesque, au film de Chaplin, notamment avec le personnage, justement, ce chien qu'ils essayent absolument d'enlever parce qu'il ne peut pas s'en empêcher, et il passe des heures à essayer de trouver comment ouvrir la cage dans laquelle il est, et à la fin seulement, ils arrivent à trouver, c'est pas eux qui le trouvent, c'est le taxi qui le trouve. Et donc là, ici, c'est vraiment un jeu justement sur les objets qui résistent au personnage burlesque, avec cette aussi immédiateté, cette errance qui correspond beaucoup en fait au personnage de Charlot. Et pareil, en fait, c'est quand même pas un hasard qu'il se retrouve dans ce décor de film. Et là, il explique comment il va se lancer dans la bataille, parce que dès qu'il y a une bataille, il peut pas s'empêcher de participer, comme s'il avait, enfin, à certains moments comme ça, il a ses réflexions très poussées, etc. Et puis à d'autres moments, avec vraiment une forme de côté primaire qui est assumé, et puis avec une description aussi des personnages, enfin justement qui s'en vont au loin, qui peuvent vraiment ressembler aux dernières images des films de Chaplin, qui sont soulignées et donc qui donnent justement cette dimension burlesque en fait aussi au roman. Sans compter aussi que les personnages, il y a plusieurs personnages qui apparaissent comme des personnages de philosophes, et ces personnages sont tous quand même tournés aussi en dérision, à commencer par Jack qui transcrit ce texte mais qui arrête pas de se dire qu'en fait il l'a mal transcrit, puis il a une façon très très particulière d'être avec ce texte. Puis il est complètement fasciné par Hugo, qui pourrait apparaître comme
un peu Wittgenstein,
mais à moitié, elle dit à un moment Murdoch dans un texte, il est à moitié Wittgenstein, à moitié Mishkin, donc le prince Mishkin de Dostoïevski, et en même temps, il est décrit comme the sleeping beast, donc la bête qui est en train de dormir, que Jack va essayer d'aller chercher, comme s'il était dans une sorte de conte, etc. Donc il y a aussi des effets de décalage. Enfin, il y a un autre personnage aussi de philosophe qui est Dave.
Qui est particulièrement insupportable.
Et qui est,
vous êtes d'accord?
Oui, et qui est tourné justement en dérision avec, je l'aime bien, mais c'est un philosophe.
C'était un vieil ami, mais il était philosophe.
Mais il était philosophe. Un peu une tare. Ouais, voilà. Et avec cette description, avec tous ces fidèles qui l'écoutent, complètement fascinés, alors que bon, et un moment aussi pareil, Jake dit, je me sentais comme les disciples avec Socrate, qui étaient piégés parce qu'il allait parler, on n'allait jamais s'en sortir. Donc avec aussi une façon assez irrévérencieuse aussi de reprendre ces figures de philosophes qui sont en même temps fascinantes.
On va revenir sur cette relation entre littérature et philosophie, parce que Murdoch elle-même en a beaucoup parlé. Effectivement, comme vous l'avez dit, Barbara Servant, ce dialogue, cette relation entre Hugo et Jake, le héros notamment autour du langage, est-ce que c'est justement un filet jeté sur la réalité ou pas, constitue le cœur du roman. On en parlera un peu plus tard, mais d'abord, on va écouter quand même à quoi ressemble cette langue de Murdoch avec ce premier extrait de son roman « Sous le filet ».
Nous étions donc assis dans Earl's Court Road, installés sur deux valises, par un matin de juillet poussiéreux et ensoleillé. Et où pouvions-nous bien aller ensuite? Cela se passait toujours de la même façon. J'allais avoir du mal à remettre mon univers en ordre, et quand enfin il marcherait, il éclaterait de nouveau tout d'un coup en un amas de mêmes misérables morceaux, et Finn et moi, nous n'aurions plus qu'à nous remettre en chasse. Je dis « mon univers » et non le nôtre, car j'ai conscience parfois que Finn a très peu de vie intérieure. En disant cela, je n'ai pas l'intention d'être grossier envers lui. Il y a des gens qui ont une vie intérieure, d'autres qui n'en ont pas. Je relis son manque de vie intérieure à sa manie de dire toujours la vérité. Les gens subtils, comme moi, voient trop de choses pour ne donner qu'une seule et unique réponse. Pour moi, les différents aspects ont toujours été un sujet d'ennui. Je relis ça à sa faculté de faire des constatations objectives au moment où elles dérangent autant qu'une lumière éclatante sur un mal de tête. Peut-être, malgré tout, Finn sent-il qu'il manque de vie intérieure. Et est-ce pour ça qu'il me suit un peu partout ? Moi qui en ai une, fort complexe et hautement différenciée. De toute façon, je considère Finn comme un habitant de mon univers et n'arrive pas à imaginer que lui puisse en avoir un qui me contiendrait. Cet arrangement nous semble reposant à l'un et à l'autre.
Voilà pour le ton du roman Barbara Servant. C'est un extrait de Sous le filet, traduction de Clara Malraux, lu par Nicolas Berger. On y entend la voix de Jake. En fait, c'est un personnage, comme on dit, homodiégétique. Ça veut dire qu'on chemine tout le long du roman dans sa tête, mais aussi dans ses illusions. Le lecteur peut avoir une certaine distance vis-à-vis de lui, ce personnage qui quand même dit que lui a un univers, alors que son fidèle compagnon Finn, lui, n'aurait pas vraiment d'univers, ou de toute façon, la question ne se pose même pas. Et aussi cet humour que nous percevons, mais que lui, on imagine être très premier degré, quand il dit « les gens subtils comme moi », alors que Jake, on s'en aperçoit, est peut-être le moins subtil au monde qui soit.
Oui, tout à fait. Et là, on retrouve quand même cette dimension aussi un peu comique, du duo comique en fait, dans lequel se projette Jake, mais qui rejoint aussi cette tradition du picaresque, peut-être avec, par exemple, Don Quichotte. Enfin, ça pourrait être son Don Quichotte et Sancho tel qu'il se l'imagine, puisque justement, à la fin du roman, il découvre que Finn part. Enfin, il découvre le départ de Finn et puis il réalise à ce moment-là aussi que Finn avait une vie intérieure et que donc c'était des illusions qu'il projetait sur lui. Il me semble que là, oui, ce passage met bien en évidence cette ironie d'Iris Murdoch, cette façon de nous faire aussi entendre autre chose à travers le point de vue interne du narrateur homodiégétique, ce qui est assez fréquent, pas dans tous ses romans, mais dans un certain nombre de ses romans, de suivre justement un narrateur masculin qui s'illusionne sur les autres, qui projette sur les autres et qui apparaît comme un narrateur un peu non fiable aussi, notamment par exemple dans The Black Prince, qui est un autre roman dans lequel justement on suit un narrateur, et puis à la toute fin on a les postscripts, les commentaires des autres personnages qui évidemment viennent contrebalancer la première vision qui nous a été donnée, mais elle glisse aussi avec l'ironie justement une distance critique qui il me semble justement être est cette légèreté pensive, cette façon proprement romanesque de nous amener à réfléchir aussi.
Quand elle écrit, on est au début des années 50, cette manière de fabriquer un anti-héros de cette manière-là, est-ce que c'est complètement nouveau ?
Par rapport à justement l'utilisation de l'ironie de ce personnage qui est un peu en errance, on peut quand même retrouver aussi la figure par exemple de Pierrot, mon ami, justement
de Raymond Queneau.
Mais dans la trame de Sous le filet, en fait, on peut aussi retrouver la trame de la nausée, même si pour le coup c'est pas du tout avec la même utilisation de l'ironie, etc. Mais par exemple, la fin du roman pourrait à plusieurs égards faire écho aussi à la fin de la nausée, notamment parce que Jake, justement à ce moment où il va chez Madame Tinker et qui voit cette portée de chat, etc. Juste avant, il entend à la radio le chant de Anna, un des personnages aussi importants.
L'amour qu'il poursuit, voilà, dire, avec qui il a été en couple, qu'il a quand même lâchement abandonné, parce que Jake est aussi un lâche, il a abandonné Hugo, il a abandonné Anna, il a un rapport, on va dire, instrumental aux autres, il s'en sert quand même pour être logé. Là, ouais. Il se retrouve à la rue parce que Magdalène, sa compagne, l'a foutu à la porte, mais en fait, c'était pas vraiment sa compagne. En fait, il habitait les étages du dessus et son logement était payé par elle. Et en fait, il avait jamais imaginé, en fait, être vraiment en relation avec elle. Donc, c'est quand même un profiteur, un opportuniste et un lâche.
Oui, Et donc, juste à la fin du roman, il entend la voix de Anna, donc ce qui peut faire écho à la nausée. Par rapport aussi à cette façon de projeter, c'est pareil, Magdalène, quand elle le vire, juste après le passage qu'on vient d'écouter, il se dit « Ah, je sens qu'elle va vouloir que je lui fasse une scène, il va falloir que j'y aille puis que je lui fasse une scène. » Puis en fait, Magdalène n'a absolument pas envie qu'il lui fasse une scène, c'est pas du tout ses attentes. Et puis c'est pareil, on avait parlé du burlesque, mais ensuite il va se retrouver, puisque donc Magdalène le lâche parce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre, et à un moment il va se retrouver en face à face avec le nouveau compagnon de Magdalène, et il se dit qu'il va, et il présente vraiment ça comme un duel, un peu à la manière du western, où ils se regardent, etc. Et puis assez vite, on se rend compte que l'autre est pas du tout dans cet esprit-là et qu'il a pas du tout envie d'être dans le duel avec lui. Et donc il y a vraiment cet effet constamment de le tourner aussi en dérision, ce personnage. Et c'est aussi ce qui peut peut-être se lâcher, ce personnage un peu qui prétend avoir une telle vie intérieure, le rendre quand même un petit peu sympathique aussi. C'est-à-dire que il est aussi pris dans toutes ces espèces de contradictions, etc. Et elle le regarde quand même pas non plus uniquement avec un regard satirique.
Comme moi, j'en ai eu un là, c'est-à-dire en disant qu'il était lâche,
mais il l'est, et il se présente comme tel. Mais avec ce rapport un peu complexe de s'analyser, d'être aussi quelqu'un qui est en formation, quoi, qui est en apprentissage de lui et en train un peu de se découvrir.
Mais toute la question qui se pose justement sur comment on devient soi, c'est-à-dire comment Jake, là dans les premières pages, a un regard complètement faussé sur les autres, sur lui-même. Il analyse les situations, vous l'avez très bien raconté, quand il rencontre le nouveau compagnon de Magdalene, son ancienne compagne, il se voit comme dans un duel, il est dans une sorte de convention sociale, il veut porter le masque de l'homme viril qui va se battre pour son ancienne compagne. On se demande comment, en fait, ce personnage va pouvoir devenir lui-même si, dès le départ, Iris Murdoch nous dit qu'il est pris dans son ego, qu'il est pétri d'illusions. En fait, à quel moment on peut croire dans la véracité de cette évolution de ce personnage ?
Peut-être que c'est quand même le format aussi de l'errance. Et puis, il y a des étapes quand même d'apprentissage, justement dans la confrontation peut-être à l'autre. Alors, Dave, dont on a parlé, et qui apparaît quand même à plusieurs égards comme assez ridicule, on l'a dit, et assez agaçant. Il habite en face d'un hôpital que Jake regarde régulièrement quand il loge plus ou moins chez lui, ou quand il vient se poser un peu chez lui. Et puis, à un moment, il décide justement... C'est une étape quand même d'aller travailler à l'hôpital. Et il dit, c'est comme ça que ça va pouvoir me permettre de sauver mon âme. Et Dave lui répond, mais il ne s'agit pas de sauver ton âme. Il s'agit juste de faire attention aux autres, de t'intéresser aux autres. Il s'agit, là encore, t'es dans une façon de vouloir sauver ton âme. Et il me semble que là, il y a quand même dans le roman, il y a quand même plusieurs rencontres et plusieurs échecs en fait, qu'il fait qui lui permettent d'intégrer ça. Après, chez Murdoch, il y a aussi ce qu'elle peut souligner. Il y a un moment où ils sont à plusieurs personnages et puis ils vont aller se baigner dans la Tamise après avoir beaucoup bu. Et là, ça a souvent été interprété, ce passage, comme une forme presque d'étape, un peu de purification en quelque sorte.
Dans la Tamise qui est dégoûtante.
Oui, par ailleurs. Et donc justement, avec toujours cet effet un peu d'écart qu'elle développe. Mais pareil, par exemple, le dialogue philosophique avec Hugo, donc qui est au cœur du roman, qui fait écho à toute la réflexion sur Wittgenstein, à la réflexion sur le langage, etc. Quand même, ce dialogue, il commence dans une espèce de lieu où, en fait, ils sont des cobayes pour tester des rhumes, pour gagner un peu d'argent. Et où, au début, il se dit qu'Hugo, il a l'air complètement idiot et qu'il a absolument pas envie de lui parler. Donc il y a vraiment toujours ces effets un peu d'écart entre ce qui est dit et puis la façon dont c'est mis à distance par le regard ironique. Et donc voilà.
Il y a aussi cet enjeu sur comment on peut avoir confiance, comme je l'ai dit, dans ce personnage qui se trompe, c'est-à-dire comment on peut croire à son évolution. Mais il y a aussi ce que nous dit peut-être en sous-texte Murdoch, c'est sur cette incapacité pour nous-mêmes, en fait, à être dans le vrai. C'est-à-dire que Jake se trompe, il a tous les signes extérieurs de la personne qui se trompe, qui s'illusionne, qui fait des erreurs, mais on a l'impression aussi que Murdoch nous parle à nous, lecteurs, lectrices, en nous disant on est toujours pris dans des faux-semblants, dans des illusions, et qu'est-ce qu'on peut avoir comme garantie de se connaître soi-même, de bien se déchiffrer soi-même ?
Mais il me semble que justement, il n'y a pas de garantie et que effectivement, c'est vrai que c'est... Et d'ailleurs, c'est le cas dans ce roman-là, mais souvent dans les romans de Murdoch, de présenter le schéma de l'erreur, de présenter un apprentissage de l'erreur, de comprendre qu'on a tort. Mais au fond, ce n'est pas parce qu'on comprend qu'on a tort qu'on arrivera forcément à être dans la vérité. Par contre, on aura conscience au moins qu'on fait des erreurs et qu'on peut faire des erreurs. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que dit Jake à la fin, parce que justement, donc il y, y a tout aussi une métaphore autour de la vision et de la vision qui est problématique, avec tout un travail qui est développé aussi littérairement sur le clair-obscur, donc avec des passages où il est justement dans l'obscurité, il va qui reprend de façon littéraire et de façon imagée en fait tout ce qui est l'allégorie de la caverne. Et à la fin, Madame Tickenham lui dit « Est-ce que tu vois ?»« Oui, je vois, mais en fait, je voyais pas du tout. » Et comme une formule un peu qu'on se dit « Tu vois ? Oui, je vois, mais en fait, j'arrivais pas à voir. » Et puis pareil, à la fin, il essaye de donner une explication sur la portée de chat, sur les siamois. Et puis elle lui dit mais vraiment, est-ce que tu y crois ? » Et pas forcément, c'est juste un miracle de la nature. Donc peut-être aussi, au fond, l'apprentissage, c'est aussi qu'on fait erreur et qu'il faut essayer le plus possible d'en avoir conscience, au fond, que de la même manière que les mots ne pourront jamais être justes dans notre appréhension du réel, c'est tout à fait juste parce que il y a cette particularité, il y a cette sensualité du réel, et en même temps on essaye quand même malgré tout de le saisir, et on sait qu'on fait erreur, mais justement en littérature, dans l'espace du roman, avec la distance critique, on présente cette conscience de l'erreur en même temps qu'on avance le discours.
Ce qui peut nous arriver aussi d'ailleurs dans la vie. Hein.
C'est-à-dire oui,
se dire, je m'exprime mal, je viens de faire une erreur et je vais essayer d'en apprendre, mais malgré tout, je suis bien obligée en fait de la faire presque.
Oui, mais avec cette conscience-là.
Ce qui change
même,
tout.
Qui change aussi, ouais.
On va écouter tout de suite un extrait de Jay qui justement fait une erreur en partant à la poursuite d'Anna, son amour perdu.
Quand je vis Anna tourner vers les jardins, mon cœur bondit comme dut le faire celui d'aîné quand il vit Didon se diriger vers la caverne. Je hâtai le pas. Anna entra dans le bois. Là, l'herbe cessait et le sol devenait mou et sablonneux sous les pieds. Anna marcha sans hésiter sur cette surface. Je la suivis dans l'obscurité. Elle avança un peu dans l'une des avenues, puis s'arrêta de nouveau. Elle regardait les arbres autour d'elle. Allant vers l'un d'eux, elle enfonça ses deux petites chaussures dans un trou, près de la racine. Quand j'arrivai à l'endroit où étaient les chaussures d'Anna, je ne pus m'empêcher de m'arrêter et de les regarder. Elles reposaient à moitié cachées, recroquevillées l'une contre l'autre comme un couple de petits lapins. Je les regardais un instant, puis obéissant à un appel irrésistible, je les ramassais. Nous étions dans la partie la plus épaisse du bois. Je me dépêchais. Qu'elle pensa à moi maintenant, qu'elle fût prête pour moi, je ne pouvais, après cette longue poursuite, en douter plus longtemps. Était-ce un rendez-vous ? Mon besoin d'elle me poussait en avant comme une force physique. Notre étreinte fermerait le cercle des années et commencerait l'âge d'or. Comme le fer vers l'aimant, j'avançais. Je la rattrapais et ouvris mes bras. « Alors, chérie, » dit une douce voix. La femme qui se retourna vers moi n'était pas Anna.
France Culture. Avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Nous parlons toujours en compagnie de notre invitée Barbara Servant du premier roman d'Iris Murdoch, Sous le filet, paru en 1954, dans lequel nous suivons Jake, qui cette fois-ci est parti à Paris sur les traces d'Anna, qui était son ancienne fiancée, amoureuse, compagne, et qui l'a recroisée et qu'il veut à tout prix reconquérir. Et alors ce moment, en fait, il parle de bois, mais en fait il faut le dire, nous sommes tout simplement aux Tuileries, Barbara Servant.
Oui, alors dans ce passage, déjà, il est en plein 14 juillet à Paris et il est persuadé qu'il va retrouver Anna. Donc avec l'idée que voilà, il pourrait la voir au milieu de la foule, et il la voit ou il croit la voir, et il se met à la suivre donc dans un lieu qu'il fantasme totalement, puisqu'il transforme donc ce jardin à la française en bois, donc transformant le lieu en une forme, en un lieu de conte. Et là, on voit justement dans l'extrait toute la superposition des références, et encore le passage et l'épisode est un peu plus long, et il y a encore plus de références. Il fait référence aussi à Cendrillon, maison avec les
chaussures.
Les chaussures qu'elle laisse au petit chaperon rouge, donc avec le bois. Mais il dit aussi à un moment la fille des bois, ou enfin je sais plus exactement la formule, mais qui renvoie aussi un peu au chaperon rouge. Là il renvoie aussi à la mythologie, à Didon et Aîné, et puis à Alice au pays des merveilles avec ses deux petites chaussures qui peuvent ressembler à des lapins dans un creux, et lui-même étant en train de lui courir après. Et donc là ici, dans ce passage, on est vraiment dans la représentation du fantasme du personnage qui projette en fait sur cette femme, et donc sur cette femme qui en plus n'est pas Anna, non seulement Anna, mais ce qu'il projette aussi sur Anna, c'est-à-dire des tas de figures féminines, lui-même se projetant donc comme une figure masculine de conte ou un héros épique. Donc là ici, de ces représentations erronées.
Ce qui pose la question de comment atteindre la vérité, ou alors on parlait d'erreurs, vous parliez de problèmes de vision, donc d'accès à la réalité. Qu'est-ce qui nous assure chez Iris Murdoch, chez ces personnages, qu'on voit juste, si non seulement le langage peut parfois être un obstacle, comme Hugo le dit, mais si aussi les images, quand on voit d'autres que soi et soi-même, nous ne les projetons, nous ne les voyons qu'à travers justement des conventions sociales, des masques, des clichés, des contes.
Oui, c'est une vraie question qu'elle pose sur le rapport à l'image, puisque l'image pour Iris Murdoch est un vrai outil en fait littéraire, par sa puissance d'équivocité et de complexité. Donc justement, c'est une façon pour elle de penser avec légèreté aussi, en essayant d'atteindre quelque chose de la réalité que peut-être le langage plus abstrait ou plus conceptuel, un langage philosophique qui se voudrait transparent, qui voudrait pas regarder son objet, permettrait, mais en même temps elle développe une vraie méfiance à l'égard de ces images figées qui sont les images du conte, quand celles-ci sont de l'ordre de la fantaisie ou du fantasme. Donc là il y a une vraie opposition aussi entre fantaisie, fantasme et imagination pour Iris Murdoch. Néanmoins, et c'est ce que je trouve assez intéressant dans ce passage, tout en mettant à distance ces images là que Jack convoque pour fantasmer le personnage d'Anna, elle s'en nourrit, et elle en nourrit aussi son roman. C'est-à-dire qu'au fond, ce faisant, elle crée cette atmosphère du conte, cette atmosphère aussi de la course-poursuite, etc. On le suit quand même, Jack, même si on a conscience du fait que c'est critiquable ou il fait erreur. Et donc, il me semble que là, elle arrive souvent justement à cette tension entre à la fois reprendre ce type de trame et en même temps les mettre à distance. C'est de la même manière, elle va se moquer des personnages de maître, comme de figures de maître et des rapports de force aussi. Elle utilise souvent, par exemple, le terme spell, le charme de certains personnages sur d'autres, et en même temps ce charme, elle en nourrit le roman pour faire des personnages qui sont fuyants, qui échappent et qui fascinent les autres aussi, même si ces personnages sont aussi dans des rapports de force. Et il me semble que là il y a aussi une tension qui est assez intéressante chez Murdoch.
Et puis il y a aussi cette idée quand même de la course-poursuite. Jake en permanence dans le roman chasse les autres. Il chasse Anna, il chasse Hugo qu'il veut retrouver, il chasse un manuscrit qu'il a perdu. Il ne fait que ça, être en chasse permanente.
Oui, et ça donc dans une dynamique un peu du désir aussi, c'est un moteur narratif, la chasse, la course-poursuite aussi, c'est-à-dire c'est vraiment la trame narrative par excellence. Et par ailleurs, lui est en chasse, mais les autres aussi sont en chasse, c'est-à-dire qu'en fait lui il court après Anna, mais en fait il découvrira vers la fin du roman que Anna elle-même, elle court après Hugo. Et donc il y a vraiment cette dimension aussi du fait de courir tous les uns après les autres. Et là ici, un peu comme une forme aussi de moteur en fait narratif, d'énergie romanesque en fait.
Mais une énergie romanesque qui est très paradoxale, Barbara Servant, parce que cette énergie, elle s'épuise, elle tourne à vide. On ne cesse de courir après la vérité, après une vision claire des autres ou de soi-même. Il est même question de destin à un moment donné. Jake nous dit, j'ai bien vu qu'il s'agissait d'une indication me permettant de déchiffrer mon destin. C'est pas la phrase exacte, mais en gros, il essaye de lui-même de déchiffrer ces chiffres-là, mais il est en permanence à la poursuite de ce déchiffrement qu'il ne parvient jamais à arrêter.
Oui, et ça, c'est vrai que ça se rejoue aussi dans le fait de vouloir expliquer, en fait. Le destin permettrait d'expliquer et de rompre avec la dimension du fortuit, quoi, du hasard. De la même manière, il y a presque une dimension un peu d'enquête. Il se crée des fausses enquêtes, Jake. Et là, ici, encore un peu qui à la fois ou avec une, un rapport un peu ambivalent de Iris Murdoch, qui à la fois s'en sert pour donner une dynamique quand même à son roman et en même temps le met à distance comme une, en mettant en évidence la façon dont ça tourne à vide comme vous l'avez souligné pour les personnages.
Mais est-ce que vous pensez, Barbara Servant, qu'il y a une vision optimiste de Iris Murdoch? Le roman est extrêmement drôle, mais il y a une forme aussi de fatalité, c'est-à-dire que on court après son destin, mais on n'arrive jamais à le déchiffrer.
On n'arrive jamais à déchiffrer son destin, mais on finit peut-être quand même par se rendre compte que l'autre existe en dehors de nous-mêmes. En tout cas, c'est quand même ce qu'éprouve Jake. Et même si ça l'empêchera peut-être pas de refaire des erreurs, il aura quand même atteint cette conscience-là, et cette conscience-là, c'est quand même une forme d'atteinte d'une vérité de l'autre, d'une vérité du rapport à l'autre, et peut-être d'une ouverture possible à une forme d'amour et d'attention à l'autre. Et en ce sens, par exemple, si elle est fascinée par le travail de Sartre et par la pensée de Sartre, elle propose justement comme une forme de contrepoint à un constat très pessimiste sartrien dans le rapport à l'autre, en soulignant le fait que l'univers de Sartre est très solipsiste, qui a une dimension, autrui apparaît comme une figure qui est dangereuse ou à laquelle on ne peut pas accéder.
L'enfer, c'est les autres.
Voilà. Et au contraire, dans ses romans, il y a quand même une forme d'espoir dans le fait de se mettre à un moment à considérer l'autre, à prendre conscience de l'autre et à le regarder avec émerveillement, à regarder cette altérité avec une forme d'émerveillement. C'est quand même ce qui arrive à Jake vers la fin, en écoutant justement Anna et en réalisant qu'elle existe hors de lui. Et c'est ce qui arrive à nombreux de ces personnages qui, dans plusieurs passages, justement, après avoir été dans pas mal de ses romans, justement, qui suivent un narrateur homme, un narrateur au milieu diégétique, qui se trompe, qui fantasme, qui prétend connaître les autres sans les connaître, et notamment dans les rapports amoureux, et qui finissent par réaliser presque tous les uns après les autres dans ses romans, que en fait, les autres leur échappent, et qui souvent le constatent avec quand même un regard émerveillé aussi. Un constat du fait que ça sera, qu'on n'y arrivera pas, mais en même temps, qu'on va quand même continuer à essayer, parce que c'est ça aussi c'est aussi beau, quoi.
En fait, l'apprentissage, c'est comment on devient soi en sortant de l'ego, en n'étant plus qu'avec soi-même.
Oui. Oui, peut-être.
On va écouter, vous avez parlé de fantasmes et d'imagination, Barbara Servant. C'est justement ce que théorise ici, on va entendre la voix d'Iris Murdoch à propos justement de rapport entre littérature et philosophie.
I certainly hold a particular view on the subject of what art is like and what literature is like.
J'ai certainement un point de vue particulier sur ce qu'est l'art ou la littérature. Je ne demande évidemment pas à tout le monde de partager mon point de vue qui assimilerait la littérature et la philosophie juste en ce sens qu'elles ont un lien avec la vérité, qu'elles recherchent la vérité et la dévoilent d'une certaine façon.
If one thinks of the kinds of things that we say about literature,
si on pense au genre de choses qu'on dit à propos de la littérature d'un point de vue critique,
condemn it for being sentimental.
On la juge souvent sentimentale,
fantastic in a bad sense,
fantasmatique dans le mauvais sens du terme. Posons d'abord la différence entre imagination et fantasme. L'imagination étant bonne et créative, et le fantasme étant une simple consolation personnelle. Et donc le fantasme serait mauvais et l'imagination bonne. Je pense que les philosophes, autant que les écrivains, doivent faire face au conflit entre le fantasme et l'imagination. Et l'intrusion des fantasmes personnels est bien sûr inappropriée. Je pense que ce conflit est encore plus grand pour l'écrivain, parce que l'imagination créative et le fantasme sont affreusement proches.
La voix d'Iris Murdoch, le 28 octobre 1977 sur la BBC. elle identifie très clairement, on l'a entendu Barbara Servant, la philosophie et la littérature. Elle réhabilite même la littérature comme étant une recherche de la vérité, n'étant pas du tout dans le fantasme, mais dans l'imagination. Pourquoi une telle opposition entre fantasme et imagination, le fantasme étant du côté sentimental, alors que l'imagination serait du côté justement de, bah peut-être du travail de l'esprit et de la recherche de la vérité ?
Oui, et d'une part, et puis aussi à cela se superpose cette opposition entre le fantasme qui est en fait enfermé dans l'ego, le caractère rapace de l'ego, et de l'autre côté l'imagination qui est au contraire l'ouverture à l'autre, le fait d'être ouvert à l'altérité. Il y a vraiment cette opposition là aussi chez elle, et qui recoupe donc ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'image, des images figées qui nourrissent l'ego pour le rassurer, au contraire d'une ouverture à des images ouvertes, équivoques, complexes, et dont on comprend qu'elles sont, elles sont ouvertes à plusieurs interprétations, et dont on accepte le caractère ouvert.
Mais ça, c'est très intéressant, Barbara Servant, parce que on pourrait se demander pourquoi, en fait, le fantasme serait d'emblée rabattu du côté d'une image fixe. Pourquoi le fantasme serait quelque chose en fait de mauvais, d'univoque, de fermé, et qui en fait peut-être, on pourrait se dire, voilà, formate les désirs plutôt qu'il ne les ouvre comme l'imagination.
Oui, là c'est dans cette représentation-là, par rapport à cette idée-là, peut-être que ça peut être interrogé de façon plus large, mais il me semble que là c'est vraiment par rapport à ça. En fait, c'est orienté par rapport à sa réflexion sur le rapport à l'ego et à cette hantise qu'elle a de la représentation de l'art qui vient nourrir en fait des obsessions personnelles en fait, et qui n'est pas dans l'ouverture, qui n'est pas dans l'agrandissement aussi du moi. Avec cette méfiance un peu platonicienne par rapport aussi à une forme de puissance de l'art qui pourrait faire perdurer un peu des représentations figées, quoi.
Et la question se pose doublement. D'une part, pour elle, romancière, comment fait-elle justement pour, à la fois, elle le dit dans l'archive, c'est très compliqué, c'est très proche, travailler sur des fantasmes, ceux de Jake en l'occurrence, et en même temps les travailler de manière à les ouvrir. Et l'autre versant, c'est celui du lecteur, qui lui aussi est pris dans des fantasmes, dans des attentes quand il lit un roman, ou même dans son rapport au monde, aux autres. Comment on fait pour transformer le fantasme en un matériau qu'on pourrait travailler et ouvrir et faire preuve d'imagination?
Il me semble que de ce point de vue-là, il y a plusieurs niveaux. Il y a un premier point qui est justement de représenter le schéma de l'erreur, d'avoir toujours une dimension réflexive qui correspond un peu à cette forme de légèreté pensive, c'est-à-dire d'être toujours avec un regard critique en même temps qui se forme, en même temps qu'on avance, ce qui n'empêche pas de le représenter et d'être peut-être pris dedans, mais d'essayer toujours d'avoir ce regard en même temps lucide sur soi. Elle invite aussi, elle dit dans une interview qu'elle essaye toujours de dire l'élément contraire pour toujours nuancer aussi sa pensée, ou là ici de mettre un regard, d'apporter un regard critique. C'est aussi le fait de multiplier les références. Donc par exemple dans ce passage qu'on a écouté avec Anna, de ne pas juste le limiter à une référence, mais de démultiplier les références qui en fait permettent du coup de ne pas asservir à une seule image, comme on avait pu le dire d'ailleurs pour les références philosophiques. Et puis aussi de créer des images qui sont équivoques et qui sont ouvertes. Elle a recours par exemple dans, alors là je pense au roman Black Prince, le prince noir, à des images vignettes qui reviennent, alors pas tout à fait comme des leitmotivs, mais un peu régulièrement dans le roman, par exemple un cerf-volant qu'elle décrit et qui revient à plusieurs reprises et auquel elle n'ajoute pas d'explication, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de symbolique, mais par contre ça revient quand même comme une forme d'image ouverte, une image vignette qui revient un peu dans le roman. Et il me semble que là, pareil, beaucoup de ces romans en fait reprennent des images, on a dit le filet, la mer, et qui vont être explorées de plein de manières différentes sans être asservies à une signification. Et il me semble que ça c'est aussi une façon d'essayer d'explorer plein de façons d'interpréter différentes qui permettent d'échapper à une image figée, justement, à cette raideur, en fait.
Mais est-ce que dans ce cadre-là, la définition que donne Murdoch, la prétention qu'elle attribue à la littérature de recherche de la vérité, est possible ? Sachant quand même que Hugo, dans le texte, donc, qui est un peu l'alter ego de Wittgenstein, dit que les mots mentent sans cesse. Qu'effectivement, le langage, pour reprendre Wittgenstein, est ce filet jeté sur la réalité. Quand on est écrivaine, comment on peut à la fois se servir de ce genre de thèse et en même temps la démonter en écrivant justement avec des mots?
Mais il me semble que justement c'est ce double mouvement qui permet cette façon si particulière à la littérature d'essayer d'accéder à une forme de pensée, c'est-à-dire d'avoir aussi conscience du langage, de prendre conscience du langage, de le mettre en évidence comme un objet aussi sur lequel on réfléchit en même temps qu'on écrit. De la même manière qu'on présente des images, elle s'en nourrit, elle les utilise ou elle utilise des schémas dont elle se nourrit, qu'elle utilise, et en même temps elle les met à distance en les critiquant en quelque sorte. Et c'est en fait dans ce double mouvement que cela permet une pensée qui serait au plus juste, même si cette pensée qui est au plus juste, elle touche peut-être pas exactement tout à fait, mais parce que est-ce qu'on peut jamais y arriver?
Oui, c'est la justesse plus que la vérité, on pourrait dire.
Peut-être.
Mes souvenirs d'Anna avaient subi une complète transformation. Chacun d'eux prenait une nouvelle dimension. J'avais oublié de demander à Hugo à quel moment exactement Anna l'avait rencontré, et ainsi qu'il le disait de façon si horrible, l'avait regardée. Mais puisque Hugo connaissait Sadie depuis très longtemps, il se pouvait que ses relations avec Anna remontassent au-delà de la dernière phase de nos relations à nous, avant notre longue séparation. À cette pensée, toutes les images que j'avais eues d'Anna me semblèrent infectées. Et je sentis les images mêmes de mes souvenirs s'altérer comme des statues qui suent le sang. Je n'avais plus d'image d'Anna. Elle s'effaçait comme une apparition de sorcier, mais sa présence restait pour moi plus substantielle que jamais. Il semblait que pour la première fois, Anna existât vraiment comme un être séparé, et non plus comme une partie de moi-même. Je souffrais extrêmement à ressentir cela. Cependant, essayant de garder les yeux sur l'endroit où elle était, j'éprouvais envers elle un sentiment d'initiative, ce qui est peut-être après tout une des apparences de l'amour. Anna était quelque chose que je devais réapprendre. Quand connaît-on jamais un être humain? Peut-être seulement après avoir pris conscience de l'impossibilité de la connaissance et renoncé à la désirer, pour finalement cesser même d'en ressentir le besoin. Mais ce à quoi alors on parvient n'est plus la connaissance. C'est simplement un genre de coexistence. Et c'est là aussi une des apparences de l'amour.
France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Nous touchons presque à la fin du roman Sous le filet d'Iris Murdoch. Nous sommes au chapitre 19, il y en a 20 en tout. Et cette prise de conscience de Jake, d'Anna, qui pour lui, nous dit-il dans le texte, n'est plus une image, mais devient plus substantielle. Se trouve condensée dans cet extrait, on pourrait le dire, Barbara Savant, tout ce qu'on a dit de ce roman, c'est-à-dire l'altérité, la prise en considération de l'autre, non plus à travers une image, mais à travers ce que l'autre peut-être ou pourrait être.
Oui, et cela, il le découvre donc après avoir réalisé que Anna poursuivait Hugo, qu'elle ressemblait pas du tout à ce qu'elle avait été avec lui dans son rapport avec Hugo, donc elle est autre que ce qu'il avait imaginé. Et par rapport aux questions justement qu'on posait, là, on peut voir justement une élaboration de réponse peut-être, comme s'il y avait une réponse qui était donnée par le roman. Et en même temps, en lien avec ce que j'expliquais tout à l'heure, cette réponse, elle est donnée par Jake, puisqu'on est toujours de son point de vue, donc elle est soumise à caution. C'est quand même lui qui est en train de se dire ça. L'autrice ne nous le dit pas, elle, explicitement. Et par ailleurs, on remarque qu'il y a quand même pas mal d'interrogatives aussi. Donc au fond, on est encore sous une forme de questionnement.
D'ailleurs, il dit, quand connaît-on jamais un être humain? C'est vrai que nous, lecteurs, on est à la fin du roman, on se dit qu'il a évolué, qu'il a tiré une forme de leçon morale. Mais si on se disait que le roman avait une suite, peut-être qu'on se dirait qu'il est extrêmement prétentieux aussi, c'est-à-dire de enfin admettre que peut-être une autre que lui qu'il aimait avait une existence propre. On pourrait effectivement tomber dans ce versant-là et puis aussi se dire qu'il essaye de se faire philosophe, lui qui tourne en dérision Dave, son vieil ami philosophe, ou qui se fiche d'ailleurs de tous ceux qui ont un peu des théories, qui a peur d'ailleurs de produire des théories, et qui là en fait pourrait en produire une, mais on pourrait se dire qu'est-ce qui fait qu'elle serait plus valable qu'au début.
Oui, et dans cette représentation aussi de la figure donc par rapport à Dave, il apparaît comme l'artiste, etc., mais quand il est dans son dialogue philosophique, c'est au contraire lui qui est le défenseur presque de la dimension théorique. Donc là pareil, il y a un effet de jeu constant, des places, etc., et qui peut se poser, si ce n'est que là, contrairement au tout début où il explique qu'il est tellement subtil qu'au fond, Finn doit être forcément attaché à lui. Là, il est quand même sous une modalité interrogative. Et par ailleurs, à la toute fin, comme je le disais tout à l'heure, il finit quand même en disant « Oui, I see, mais je vois, mais en même temps, je ne sais pas exactement ce que ça voulait dire. Je ne suis pas sûre que je voyais vraiment. Et puis, je vais vouloir proposer une explication, mais finalement, est-ce que je peux vraiment en donner une ?» Donc, il y a quand même cette nuance qui est apportée, même si, évidemment, le personnage n'est pas complètement transformé non plus. Et il me semble que c'est aussi ce qui fait la saveur du roman, malgré tout, justement, qui fait que ce roman n'est pas une illustration de la théorie non plus, qu'elle est plutôt une mise en évidence de ces questionnements, et comme on le disait tout à l'heure, une mise en évidence qui nous invite, nous lecteurs et lectrices, à s'interroger à notre tour presque au fond. Il s'agit aussi de nous amener à nous interroger. Peut-être que le personnage restera un petit peu solipsiste, et même s'il prend un tout petit peu conscience, mais nous peut-être qu'on est plus amenés justement à s'interroger. Par rapport à ça aussi, il y a tout un travail, on l'avait dit, par rapport à l'ironie, mais aussi parfois au blanc narratif, au fait de faire sentir des choses par la construction romanesque, des effets d'écho, etc., qui peut jouer et qui là s'adresse aux lecteurs et aux lectrices.
C'est vrai qu'il se fait beaucoup plus interrogatif, il est dans une position de doute, ce qu'il n'avait pas au départ, il était très sûr de lui, même dans ses erreurs. Là, effectivement, on se dit qu'il se questionne. Et puis, il y a aussi autre chose, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Barbara Servant, c'est l'amour. C'est-à-dire qu'auparavant, il ne parle pas d'amour. Il parle d'une forme d'attachement, d'opportunisme à être avec certaines personnes. Mais même dans ses amitiés, on se demande si ses amis ou ses amours lui permettaient de passer du bon temps ou étaient vraiment, avec lesquels il était vraiment dans une relation qui était authentique. Là, on entend ce terme d'amour.
Oui, et d'amour qui est dans une forme de coexistence, de prendre conscience que l'autre nous échappe et donc n'est pas un être qu'on utilise, qui n'est pas réifié, qui n'est pas un objet qu'on va utiliser pour se loger ou parce que ça va nourrir nos fantasmes narcissiques, mais au fond qui coexiste à côté de nous, qui a son monde intérieur et monde intérieur qui peut nous émerveiller.
Est-ce que vous conseilleriez, Barbara Servant, de commencer par ce roman si on veut se plonger dans l'œuvre d'Iris Murdoch, qui reste, comme je l'ai dit au début de l'émission, et c'est pour ça aussi qu'on fait cette série d'émissions, quelqu'un de méconnu en France?
Oui, bah moi c'est par ce roman que j'ai commencé, et c'est vrai que je trouve qu'il a vraiment une trame à la fois ludique et en même temps de vraie réflexion, et de cette dimension réflexive qui est très stimulante. Il y a un autre roman que j'ai déjà évoqué mais que j'aime vraiment beaucoup et donc que j'évoque aussi, qui est donc The Black Prince, le prince noir, et qui a aussi cette dimension assez littéraire, puisque c'est un romancier qui écrit ses mémoires et qui apparaît d'emblée comme un narrateur non fiable, parce que assez antipathique aussi, qui semble avoir un procès, donc on comprend pas exactement, il y a une forme d'enquête un peu dont Murdoch se nourrit aussi, tout en le mettant à distance dans cette même dynamique qu'on a pu voir pour Sous le filet, et avec donc cette utilisation des postscripts à la fin, donc de tous les personnages qui se mettent à donner leur version et qui viennent donc confronter la version initiale, et donc je trouve qu'il est assez savoureux aussi pour ces raisons-là.
Merci beaucoup Barbara
Merci
Servant.
Beaucoup à vous.
De vous on peut lire Légèreté pensive et énergie romanesque, Iris Murdoch, Raymond Queneau et Italo Calvino. C'est disponible aux éditions Classiques Garnier, et vous pouvez aussi lire Sous le filet d'Iris Murdoch. C'est disponible en folio dans une traduction de Clara Malraux. maintenant, c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment de Frédéric Worms.
Pourquoi a-t-on plusieurs amitiés ? Pour des raisons très profondes, nous sommes habités dans nos vies par l'idée de l'amour ou de l'amitié unique, l'idée de l'ami exceptionnel, de l'ami inséparable, de l'ami de toute une vie, comme, et cela se rapproche d'ailleurs effectivement de l'amour, l'amour qui semble exclusif à chaque fois, en tout cas l'amour unique. Mais pourtant, dans l'amitié, il y a aussi un pluriel qui est aussi constitutif de l'amitié que sa singularité même, voire son exclusivité possible. L'ami exceptionnel, l'ami unique, les amis. Le pluriel des amis et des amis, eux, ce pluriel qui se réunit aussi dans des fêtes où on invite les amis au pluriel, ce pluriel de l'amitié qui semble aussi important pour la pensée qu'à chaque fois son caractère singulier. La pluralité de l'amitié qui se traduit aussi dans des formules très célèbres et mystérieuses comme les dédicaces de certains grands livres aux amis inconnus, les amis au pluriel qui peut-être deviendront amis avec l'écrivain à force de le lire. Également, y a-t-il là un terme possible de l'amitié, un pluriel ouvert de l'amitié indéfinie, les amis du genre humain, l'amitié ouverte, indéterminée, tout aussi importante peut-être que l'amitié unique et exclusive. Il y a donc un problème, voire un mystère, du pluriel de l'amitié elle-même. Ce pluriel de l'amitié, il y a deux manières de le penser, en fait. Il y a la manière tout à fait sérieuse, profonde, dont semble d'abord le penser Aristote. Aristote, au livre 8 et 9 de l'Éthique à Nicomaque, pense l'amitié comme un lien humain fondamental, un lien sans lequel la société s'écroulerait et un lien qui traverse toutes les relations humaines et qu'on peut distinguer, classer en quelque sorte, selon les types de relations. Il y a donc chez Aristote une théorie très précise de la pluralité des amitiés. L'amitié se fonde d'abord sur un lien social préexistant. C'est une sorte de supplément personnel à un lien social. Il en distingue trois. Il y a les amitiés fondées sur l'utile, par exemple les amitiés professionnelles. Nous partageons un métier et en plus nous pouvons devenir amis avec une dimension personnelle. Il y a le lien fondé sur le plaisir et pour Aristote, la plus profonde des relations amicales se fonde sur la vertu, sur le partage de la recherche, de la sagesse, et il retrouve ici la communauté des amis que chaque philosophe grec, que chaque école de philosophie antique, comme l'a montré Pierre Hadot, cherchait à constituer autour d'elle. Une école philosophique, c'est un groupe d'amis fondé sur les mêmes idées, non seulement sur les mêmes intérêts ou sur les mêmes plaisirs, le golf, mettons, dans mon cas plutôt le tennis, le ping-pong, disons, et puis d'un côté, ou bien le travail, l'enseignement, la radio, toutes les communautés de travail qui créent des amitiés. Et pour Aristote, la plus profonde, c'est celle de la discussion, de la conversation libre. Mais à côté de cette pluralité des amitiés fondées sur des intérêts, il y a évidemment les relations personnelles qui s'y ajoutent, avec ce mythe ou cette réalité de l'ami exclusif et unique dont Montaigne, à l'autre bout de la pensée de l'amitié, a été l'extrême avec la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Bien sûr, toutes les théories de l'amitié combinent les deux. Il y a chez Aristote du lien personnel en plus du lien social ou intellectuel. Et entre Montaigne et la Boétie, il n'y avait pas que l'amour ou l'amitié exclusive. Il y avait aussi les intérêts politiques et philosophiques partagés, en particulier contre la tyrannie et la dictature de l'opinion. La Boétie, auteur du manuel contre la servitude volontaire, et Montaigne, les essais qui luttent aussi contre la servitude volontaire. Mais on a besoin de plusieurs amis, de plusieurs amitiés. Pourquoi ? Parce que l'amitié nous ouvre sur le monde, parce qu'on peut sympathiser avec quelqu'un par son œuvre, d'où les amis inconnus futurs qui nous liront ou nous entendront, mais parce qu'on doit aussi avoir une relation personnelle. C'est à chaque fois une ouverture sur l'universel et sur l'individuel, et c'est pourquoi, tout en pouvant être exclusive et quasi amoureuse, l'amitié peut être aussi ouverte et quasi politique.
Merci Frédéric et merci à toute l'équipe, Antoine Ravon, Philippine de Bellois, Anna Fulpin, Carla Michel, Shaima Giboire, à la réalisation Nicolas Berger, à la prise de son Alex Zang. Pour retrouver toutes les émissions avec Philosophie, rendez-vous sur le site de Radio France et sur l'application Radio France également.